Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et nous sommes de retour pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous, c'est la libre antenne. 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix, pour revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours dans l'actualité française, internationale, africaine. Liberté de parole, donc surtout profitez-en, où que vous soyez à travers le monde. 33 9 693 693 70. Vos réactions également sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, lorsque vous postez un message sur la page Facebook de l'émission, de nous indiquer évidemment en message privé vos coordonnées afin que nous puissions vous rappeler, car le principe de cette émission est de vous donner la parole, de vous entendre en direct sur l'antenne d'RFI. Nabil est avec nous, il nous appelle d'Abidjan. Bonjour Nabil.
Bonjour Juan.
Vous nous interpellez, vous, sur la crise diplomatique dans le Golfe après la décision de l'Arabie Saoudite, de Bahreïn, des Émirats Arabes Unis, de l'Égypte et du Yémen de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Le Qatar qui, rappelons-le, est accusé par l'Arabie Saoudite et ses voisins de complaisance à l'égard des islamistes. Le Qatar qui est accusé de soutenir, disons-le, des groupes terroristes comme Daesh, Al-Qaïda ou encore la confrérie des frères musulmans. Et vous, vous avez dit au Standard avoir été estomaqué en apprenant la décision de l'Arabie Saoudite.
Oui, tout à fait, parce que c'est assez surprenant que l'Arabie Saoudite se réveille tout d'un coup et découvre tout d'un coup que le Qatar, après 7 ans, soutient le terrorisme. Je rappelle que les pays qui ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar sont le Yémen, que le Yémen est un pays qui est écrasé par les bombes saoudiennes. Il y a 100 000 cas de choléra hier qui ont été révélés par l'ONU. Le Bahreïn, qui a rempli ses relations, est un pays occupé par l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite pratique un terrorisme d'État à l'intérieur même de ses propres frontières contre sa minorité chiite. Donc je ne comprends pas la politique saoudienne et surtout la politique de suivi de certains pays musulmans qui suivent tout de suite l'Arabie Saoudite dans tout ce qu'elle décide parce qu'elle a de l'argent, tout simplement, il faut le dire.
Ouais. Alors quand vous parlez de politique de suivi, est-ce que vous pensez également à certains pays africains? Vous êtes sur le continent africain vous-même, vous nous appelez de Côte d'Ivoire. On a vu la Mauritanie et les Comores rompre immédiatement leurs relations diplomatiques avec Doha. On en parlait tout à l'heure avec Guillaume Thibault, notre correspondant à Dakar. Le Sénégal, qui se dit solidaire de l'Arabie Saoudite, a rappelé son ambassadeur au Qatar. Le Tchad a fait de même. Djibouti a décidé de réduire sa représentation diplomatique dans l'Émirat. Est-ce que les pays africains doivent prendre position dans cette crise?
Non, les pays africains n'ont pas à prendre position. Parce que l'idée, il faut déjà remonter à la source du mal, à la source du terrorisme. Le terrorisme islamiste aujourd'hui, Al-Qaïda et Daesh, se nourrit de l'idéologie wahhabite. Et l'idéologie wahhabite a sa source en Arabie Saoudite. Il faut le dire clairement et nettement. Et le continent africain est menacé par le wahhabisme. Les attentats, il y en a tous les jours au Mali, au Cameroun, au Tchad, etc. Je ne comprends pas que ces pays suivent aveuglément ceux qui professent eux-mêmes cette idéologie terroriste, qui est l'Arabie Saoudite, tout simplement.
Ouais. Enfin, le Qatar est accusé de soutenir le terrorisme, mais c'est vrai qu'il y a eu ces dernières années des experts, voire même des notes, censées rester secrètes, mais des notes de renseignements, notamment américains, accusant Al-Qaïda, l'Arabie Saoudite de financer notamment des mouvements comme Al-Qaïda.
Oui, tout à fait, puisqu'on a à peu près 10 000 princes en Arabie Saoudite, on a des fondations qui récoltent de l'argent, qui envoient de l'argent partout dans le monde pour financer l'idéologie wahhabite. Je ne comprends pas qu'on s'en prenne au petit Qatar. La source de l'inspiration de l'idéologie salafiste se trouve en Arabie Saoudite elle-même. Je ne comprends pas qu'on puisse... En Arabie Saoudite, il n'existe aucune église, il n'existe aucune minorité n'a droit de citer. Je ne comprends pas que ce pays se met tout d'un coup à donner des leçons des leçons de moralité au petit Qatar. Ouais.
Alors on parlait à l'instant, Nabil, de la réaction d'un certain nombre de pays africains. Moussa est à Dakar. Bonjour Moussa.
Oui, bonjour. Je suis aussi du Sénégal, Hadi Guinchor.
Hadi Guinchor, j'avais Dakar sur ma petite fiche, mais vous êtes tout de même le bienvenu et merci de nous écouter, Hadi Guinchor. Vous regrettez la décision de votre pays de rappeler l'ambassadeur à Doha?
Tout à fait, je regrette la décision du Sénégal d'avoir rappelé son ambassadeur à Doha, parce que je pense que le Sénégal n'avait pas à s'interférer dans les affaires concernant l'Arabie Saoudite et le Qatar. Le Sénégal est un État indépendant et souverain et qui a longtemps fait preuve également d'une bonne diplomatie à travers le monde. Alors je pense que cette décision a été prise de manière très prématurée et que c'est tout juste... Le Sénégal n'est pas un pays qui doit chercher vraiment à faire plaire à l'Arabie Saoudite dans ses relations avec ses pays voisins.
Oui. Mais on se souvient, en tout cas je me souviens, il y a 2 ans, le Sénégal, dans ce bras de fer Arabie Saoudite, mais cette fois-ci c'était contre l'Iran, le Sénégal avait également choisi son camp à ce moment-là. Comment vous expliquez l'attitude des autorités sénégalaises? Est-ce qu'il y a une volonté derrière d'essayer de maintenir une coopération avec l'Arabie Saoudite qui financièrement est peut-être importante, ou est-ce qu'il y a d'autres enjeux?
Je pense que l'enjeu principal, nous pouvons parler de 2 enjeux. Non seulement le Sénégal cherche vraiment à conserver ses relations de bon voisinage avec l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite est un géant économique et qui participe largement au financement d'un certain nombre de programmes de développement au Sénégal. Il y a ces paramètres que nous pouvons comprendre plus ou moins l'attitude du Sénégal. Mais je pense que par là, le Sénégal devait jouer la carte une diplomatie de l'apaisement en cherchant vraiment à rapprocher les deux pays que sont l'Arabie Saoudite et le Qatar, plutôt que vraiment de se mêler dans cette histoire où pratiquement le Sénégal n'y gagne absolument pas grand-chose. Moi, je ne vois pas. Parce que quoi que l'on puisse dire également, le Qatar est un pays ami du Sénégal qui a longtemps entretenu de très bonnes relations avec le Sénégal. Alors, je ne vois pas la raison pour laquelle notre pays cherchera vraiment à s'intéresser dans une prise diplomatique ne lui concernant pas directement.
Bien, merci Moussa de nous avoir appelé de Ziguinchor. Merci à Nabil qui était en ligne d'Abidjan. Et nous prolongerons lundi le débat. L'Afrique doit-elle prendre position dans cette crise, dans ce bras de fer qui oppose l'Arabie Saoudite au Qatar? On aura largement l'occasion d'en parler donc lundi matin. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour Juan.
Vous nous appelez de Conakry et vous réagissez, vous, au coup de colère du président guinéen Alpha Condé face aux étudiants qui participaient à la cérémonie d'inauguration du Forum des étudiants. C'était en quelque sorte un salon des étudiants. Et c'est vrai que dès son entrée dans la salle, des étudiants ont manifesté leur mécontentement devant le président de la République.
Oui, Juan, très rapidement, parlons un peu de la genèse de ce projet. C'est un projet nourri par une entreprise locale et soutenu par le gouvernement dans le seul but vraiment de doter les étudiants guinéens des outils informatiques.
Alors, excusez-moi, Mohamed, quand vous parlez de projet, vous faites référence à cette promesse électorale, puisque tout découle de cela. Il y a quelques années, le président Alpha Condé avait promis que chaque étudiant recevra une tablette numérique. Alors, dès qu'il est entré dans la salle, il y a quelques jours, les étudiants ont commencé à réclamer leur tablette. Ils ont scandé « tablette, tablette, tablette » et le président de la République est parti en colère.
Oui, bien sûr, écoutez, je pense que d'abord la réclamation des étudiants, moi je pense que c'est normal que les étudiants réclament vraiment quelque chose au père de la nation, le président de la République, mais la manière a tout gâché, parce que on ne peut pas, réagir comme ça. Nous, en Guinée, nous sommes un pays, vraiment, nous avons notre tradition, nous avons notre culture, c'est le respect surtout des aînés et surtout des chefs. Mais la façon dont les étudiants ont réagi la dernière fois, ce n'est pas un comportement guinéen, c'est un comportement qui déshonore vraiment la jeunesse de ce pays.
Ouais. Et aussi, est-ce que la réaction du président a tout de même été à la hauteur lorsqu'il il est interpellé par les étudiants? Il prend la parole, il dit « J'ai été étudiant avant vous et nous avons rendu l'Afrique fière de nous. Vous, vous êtes des cabris. Tablette, tablette, tablette. On ne mettra pas de tablette à votre disposition. Ce n'est pas un droit », leur a-t-il dit.
Oui, écoutez, la réaction du président de la République, c'est celle d'un chef de l'État responsable, vraiment, qui est avec beaucoup de courage capable de mettre le doigt dans la plaie, dans le seul souci vraiment de guérir cette plaie. Donc, il a dit vraiment des propos d'un chef, de, d'un président responsable, ce n'était pas dans la, dans la chose, dans, dans l'objectif de blesser qui que ce soit.
Oui.
Il s'adressait à ses petits-enfants, il s'adressait à ses enfants.
Mais, c'est pour, mais de là à leur dire, Mohamed, les étudiants qui sortent soi-disant maîtrisards ne sont même pas capables de faire une phrase sans faire de faute. Ils n'ont même pas une base. Voilà la vérité, leur a-t-il dit. Ce sont des propos qui peuvent apaiser dans des situations un peu tendues.
Écoutez, c'était aussi l'objectif de ce forum, c'est-à-dire inviter les responsables de l'école des universités guinéennes, inviter aussi les partenaires africains pour réfléchir ensemble sur l'avenir de, vraiment de l'école guinéenne. Donc je pense que si le chef de l'État vraiment a dit ceci, c'est parce que nous sommes ici, nous vivons des réalités vraiment qui ne sont pas acceptables. C'est vrai, on a des étudiants aussi qui sont diplômés, mais vraiment la réalité est que vraiment ils n'ont pas du tout le niveau.
Oui.
Donc cela a poussé vraiment le gouvernement à réfléchir autour de l'école guinéenne, de l'avenir des étudiants. Et si réellement, au cours vraiment de ce forum, les étudiants se sont comportés ainsi, je pense que c'est quelque chose à condamner. Mais je vous rappelle que c'est un comportement qui a connu une forte dose de manipulation. Manipulation dont aujourd'hui nous avons la preuve. Et je pense que le ministre de l'enseignement supérieur est invité à prendre des mesures afin que les auteurs... oui, bien sûr.
Vous parlez de manipulation. Qui a manipulé les étudiants pour interpeller le président de la République ?
J'en viens, monsieur Roy.
Ah non, mais faut y aller, il y a beaucoup d'auditeurs sur d'autres sujets, donc vous n'en avez pas monopolisé l'antenne. Dites-moi, qui est derrière tout cela ?
Voilà.
Non, mais qui ? Répondez. Répondez, Mohamed.
C'est des fondateurs des universités privées
qui
veulent continuer à bénéficier de la subvention du gouvernement. Or, le ministre actuel a dit qu'il n'est pas acceptable que l'État continue de verser 375 milliards à des universités privées.
D'accord. Bon, on va pas ouvrir. Mohamed, n'ouvrons pas le débat sur ce point-là. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Vous avez les preuves. Moi, j'attends de les voir pour dire qu'effectivement, ce sont les directeurs des universités privées qui ont manipulé les étudiants l'autre jour devant le président de la République. En tout cas, ce qui est intéressant et ce qu'il faut dire tout de même, sérieusement, c'est que, après ce coup de colère, le président de la République a dit, nous allons suspendre la distribution des tablettes numériques, qui était donc une promesse électorale, et dans la soirée même, le président est revenu sur cette décision, donc les étudiants auront bel et bien leurs tablettes numériques. Merci Mohamed de nous avoir appelé, le temps passe très très vite, au standard, au 33 9 693 693 70, Issiaka est avec nous, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Bamako, au Mali. Nous en parlions tout à l'heure avec Anthony Fouchard, le correspondant des RFI à Bamako. La révision constitutionnelle qui est contestée par une partie de l'opposition. Le texte sera, on le verra, peut-être adopté dans un mois, dans tout juste un mois. Le 9 juillet se tiendra donc un référendum pour adopter ou non cette constitution. Et vous comprenez tous ces opposants qui manifestent leur colère?
Bien sûr, Juan, je comprends tous ces opposants qui manifestent leur colère parce que c'est un véritable recul de la démocratie après 26 ans de démocratie multipartiste, Juan Gomez. Si aujourd'hui on voit que ce projet de révision constitutionnelle est d'abord illégal parce que la constitution de février 92 qu'on a aujourd'hui au Mali, elle interdit tout projet de révision constitutionnelle à son article 118 si l'intégrité du territoire n'est pas contrôlé par l'État. Et aujourd'hui, il est évident que l'État malien ne contrôle pas tout son territoire.
Donc, aussi, vous faites partie de ceux, Issiaka, attendez, vous faites partie de ceux, si je comprends bien, qui disent, on ne peut pas organiser un référendum aujourd'hui au Mali si le territoire n'est pas totalement contrôlé par l'État. C'est-à-dire que s'il y a encore des groupes rebelles qui contrôlent des secteurs, par exemple dans le centre ou dans le nord du pays, la tenue d'un référendum est anticonstitutionnelle.
Est anticonstitutionnel. La tenue des référendums est totalement anticonstitutionnelle parce que, one, il est évident que l'armée malienne ne contrôle pas les territoires maliens et l'État malien n'est pas partout, l'administration n'est pas partout. Et le deuxième motif qui fait que cette constitution n'est pas démocratique, c'est le fait que le président de la République aura des pouvoirs renforcés. Il aura la possibilité de nommer beaucoup de chefs d'institution. Et c'est un président de la République qui est intouchable par la justice. Voilà donc. Et deuxième chose, c'est que on aura un Sénat, et je pense qu'au Mali aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un Sénat qui est 17 ivoire ou en commerce. Et
C'est-à-dire que vous dites que sur un plan financier, il y a d'autres priorités que de créer un Sénat. C'est-à-dire que si on a de l'argent pour créer un Sénat, on ferait mieux de le dépenser, je ne sais pas, pour augmenter les salaires des fonctionnaires, par exemple.
Des fonctionnaires ou d'investir dans l'armement. On a une armée qui n'a pas de moyens aériens aujourd'hui. Vous avez vu, Wan Gomez, il y a eu tellement de grèves dans ces derniers temps au Mali. Le dernier point que je voudrais évoquer, c'est le fait qu'il y a l'amendement 173, il y a l'article 143 qui dit que le président de la République peut prendre l'initiative de faire réviser la Constitution sans passer par un référendum.
Oui. Effectivement. Ce n'est peut-être pas acceptable, mais enfin, il le peut, mais il peut passer, enfin, réviser la Constitution sans passer par un référendum, mais ce sera à l'Assemblée nationale et au Sénat de valider ou non cette révision constitutionnelle. Donc, à l'opposition de remporter le maximum de députés et de sénateurs lors des prochaines élections. Le débat est loin d'être clos, et vous me donnez l'idée, Issiaka, de lancer le débat la semaine prochaine. On en parlera peut-être mardi ou mercredi, mais c'est un sujet, je le vois bien, qui fait réagir sur les réseaux sociaux et également au standard. Merci à vous, Issiaka. Excellente fin de semaine à Bamako. Il nous reste 4 minutes. On va certainement terminer avec des auditeurs qui souhaitent nous parler de la situation sécuritaire dans le Poul. Le Poul, c'est cette province qui est sous blocus militaire depuis maintenant un peu plus d'un an au Congo-Brazzaville. Les combats, les accrochages se sont multipliés ces derniers mois entre d'un côté les troupes du pasteur Ntoumi et de l'autre les troupes gouvernementales. D'ailleurs, vous avez certainement entendu hier François Fall, qui est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Il était l'invité de l'antenne Afrique de RFI, et il disait clairement sa préoccupation par cette crise qui a fait 81 000 déplacés en un an. Au standard, qui avons-nous? Franck, bonjour Franck.
Bonjour.
Bienvenue. Vous souhaitiez
bonjour, nous
parler de la situation dans cette province. Et vous dites, le gouvernement doit encore et toujours continuer à traquer le pasteur Ntoumi et ses hommes.
Oui, en fait, nous devons soutenir le gouvernement parce que je ne comprends pas qu'il y ait l'amalgame entre un terroriste qui fait des exactions, par exemple, dans le Poul, et que les gens se mettent à le soutenir. Le terrorisme est le même, c'est-à-dire la traque contre le terrorisme doit être universelle. La communauté internationale est en train de taquer Daesh, qu'on appelle en Irak, et puis dans le Sahel. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui on doit soutenir quelqu'un qui est en train de couper les coups aux gens, d'enlever, de sectionner pardon, des organes.
Mais excusez-moi Franck, vous avez vraiment l'impression aujourd'hui que il y a des gens, pour reprendre votre terme, des gens qui soutiennent le pasteur Ntoumi?
Si, oui, mais il faut. Mais ça fait d'avril 2016. Aujourd'hui, nous sommes en juin 2017. Vous pensez que non, il est seul en train de mener ce qu'il fait?
Non, mais quand vous dites des gens, j'avais l'impression que vous parliez de la communauté internationale.
Oui, mais quand on nous suivons, par exemple, les interviews. Hier, je suivais, par exemple, l'interview passée devant le représentant, par exemple, de l'ONU. Mm-hmm. Mais c'est l'interview à charge pour pousser à dire que non, c'est le gouvernement qui est en train de faire. Mm. Aujourd'hui, moi, je vais, par exemple, demander au gouvernement de quitter la logique politique pour aller vers une logique judiciaire. Mm. C'est quelqu'un qui est en train de commettre des exactions, par exemple, dans le Poul. Il faut le traquer pour le conduire devant la juridiction.
Donc vous privilégiez l'option militaire, mais lorsque vous parlez des violations des droits de l'homme, et hier le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale en parlait également au micro de RFI, mais il fait état d'exactions commises par les deux camps, aussi bien par les partisans du pasteur Ntoumi que par les forces armées congolaises.
Je comprends par exemple ce que disait par exemple hier le représentant. Les forces armées, c'est pas par exemple les enfants de cœur. Ils arrivent, vous voyez par exemple sur les réseaux sociaux ce que les hommes de Ntoumi sont en train de mettre. Ils font pratiquement comme le fait Daesh. Ils sont en train de tuer les militaires et que les militaires vont se laisser faire parce qu'eux ils représentent quoi?
Enfin, en même temps,
que la communauté.
En même temps, il y a énormément de victimes civiles. Je parlais de 81 000 déplacés. Difficulté également pour les humanitaires d'avoir accès à certains districts du pool, parce que les autorités soit ne laissent pas passer les humanitaires, soit officiellement invoquent des raisons de sécurité. En tout cas, la situation est très inquiétante. Merci Franck. Daresh souhaitait également nous interpeller sur la situation dans le pool, mais on aura l'occasion, c'est promis, d'y revenir. Lundi, donc, première partie, je vous le rappelle, spéciale consacrée